Un chiffre immense, 1 milliard de personnes qui souffrent de la faim dans le monde, une réaction mondiale qui commence avec une campagne qui s'appelle One Billion Hungry, une forme de colère planétaire démarrée par l'Organisation mondiale contre la faim et pour le développement, la FAO. Hervé Lejeune, pourquoi cette campagne ?
One Billion Hungry, c'est une campagne qui a été lancée il y a maintenant 3 semaines par la FAO. Et aujourd'hui, nous avons à peu près 1 million de personnes sur Terre qui ne mangent pas à leur faim. Ça représente aujourd'hui à peu près 1 personne sur 6 dans le monde, ce dont on n'a pas vraiment conscience. Et à la suite de cette crise, en 2007-2008, un certain nombre d'actions ont été entreprises. Mais très vite, la crise économique a rattrapé cette crise alimentaire. Et beaucoup ont oublié qu'une personne sur 6 dans le monde souffre de la faim. Et donc aujourd'hui, il était utile de relancer la mobilisation, la sensibilisation de l'opinion publique, des responsables politiques sur cette question. Car il n'est pas normal qu'aujourd'hui, dans notre monde si riche, autant de personnes ne puissent pas accéder à l'alimentation.
Surtout que les chiffres n'ont pas baissé.
Les chiffres ont plutôt augmenté au cours de ces dernières années, depuis cette crise aiguë que nous avons connue. Des actions ont été mises en place. Nous avons bon espoir, cela étant, que dans les prochains mois, on voit une petite amélioration de la situation, parce que, heureusement, les actions ont des effets positifs. Donc on attend maintenant les derniers chiffres qui seront probablement donnés à l'automne sur l'évolution de la situation. Nous avons bon espoir que ça s'améliore, mais c'est toujours trop.
Votre directeur, Jacques Diouf, s'est mis en colère il y a quelques semaines.
Oui, alors il s'était déjà mis en colère il y a quelques mois et avait fait un jeûne symbolique au moment du sommet de l'alimentation à l'automne. Il lui a semblé nécessaire maintenant de relancer une campagne beaucoup plus large de mobilisation et qui est axée essentiellement sur les nouveaux outils de communication, les nouveaux médias et une campagne de pétition, de signature pour que les gens se mobilisent sur cette question et interpellent tous leurs responsables politiques pour que le discours soit non seulement porté, mais qu'aussi les moyens financiers suivent.
Alors cette campagne, on peut la trouver sur Internet et on entend justement un acteur américain qui s'indigne. Le mot d'ordre de cette campagne, quel est-il ?
I am hard as hell. Alors c'est très difficile à traduire, c'est une expression américaine, c'est... Ça veut dire « je ne peux plus supporter cette situation ». Mais c'est ça le sens de la campagne, c'est « nous sommes en colère ». Et il y en a assez de cette situation.
Alors, quels sont les moyens que vous proposez? Quels sont les objectifs de cette campagne?
Alors, cette campagne, c'est essentiellement une campagne de mobilisation qui a pour avantage de toucher toute la population et en particulier beaucoup plus axée sur les jeunes, qui sont quand même pour l'avenir ceux qui auront un rôle à jouer dans toutes ces actions au niveau international et au niveau collectif. Ce que l'on souhaite, c'est qu'au regard des rendez-vous dans les grandes régions du monde, au niveau politique, des conférences qui vont se tenir prochainement sur toutes ces questions de l'alimentation et au regard aussi des grands décideurs du monde, que ce soit aux Nations Unies, dans le cadre du G20, du G8, que ces campagnes portent pour que l'intérêt continue d'exister sur ces questions d'alimentation.
Et pour que l'argent soit débloqué.
En fait, on a, à l'occasion du dernier sommet qui s'est tenu à la FAO en novembre dernier, où ont participé de nombreux chefs d'État, tous les travaux préparatoires au sommet ont montré que, annuellement, pour les prochaines années, nous avons besoin de mobiliser 44 milliards de dollars chaque année d'investissement dans l'aide publique au développement. Nous en sommes loin aujourd'hui de ces niveaux, mais si l'on veut pouvoir demain, quand je dis demain, c'est à l'horizon du moyen terme, mais aussi du plus long terme, c'est-à-dire à l'horizon 2050, où en fait la population mondiale va atteindre un seuil de l'ordre de 9 milliards d'habitants, il va falloir investir ces sommes-là annuellement pour être en mesure de nourrir les 9 milliards d'habitants qui seront sur notre planète en 2050. Techniquement, c'est possible. Nous savons tous comment faire. Il y a évidemment quelques éléments qui peuvent encore évoluer. La recherche va encore évoluer et proposer un certain nombre de solutions. Nous devons faire ça aussi en respectant l'environnement, la gestion des ressources naturelles. Mais techniquement, ce n'est pas la principale question. D'ailleurs, nous avons des success stories. Nous avons en Afrique aujourd'hui, en Asie, des pays qui ont répondu à ce défi de la faim et qui sont passés d'une situation de déficit aujourd'hui à une situation excédentaire. C'est possible. Donc il faut arrêter de se lamenter, de dire ceci est éternel. Non, c'est pas vrai. On a des exemples de pays qui aujourd'hui nous montrent que c'est possible.
Et cette campagne, qui est une campagne de signature, va pouvoir influer.
C'est comme toujours le message qui est porté et l'effet de masse qui est attendu. Donc il faut qu'effectivement le plus grand nombre possible de personnes aillent sur Internet.
Il y a pas longtemps, j'ai lu votre site et 1 milliard de personnes qui souffrent de la faim, mais vous rejoignez, je crois, 1 milliard de personnes qui ont signé cette campagne en l'espace de 3 semaines.
Alors, en l'espace de 3 semaines, on n'a pas encore le milliard, malheureusement, mais on espère bien qu'au cours des prochains mois, nous allons l'atteindre. Nous pensons que c'est une campagne de mobilisation déjà au niveau international, qui nécessite du temps, que les gens se mobilisent aussi dans un certain nombre de réseaux. Et donc, nous ferons le bilan à l'automne, mais nous avons bon espoir d'atteindre les objectifs.
Alors Hervé Lejeune, vous êtes sous-directeur général de la FAO. Est-ce que quand vous aviez 15 ans, vous pensiez déjà à être dans une organisation internationale, à pouvoir influer justement à ce niveau politique alors que vous vous engagiez dans l'agriculture ?
Ce que je peux dire, c'est que j'étais au lycée agricole à cette époque-là. Tous les ans, nous recevions un almanach ou un agenda. Et il me semble que ça a été mon premier contact avec la FAO parce qu'il y avait régulièrement un article de la FAO et pour un jeune qui est dans un lycée agricole avec l'idée que l'agriculture, c'est quand même la première énergie du monde, c'est le fondement de l'activité humaine, c'est le premier besoin de l'homme, se nourrir, enfin, on rêve autour de ça. Et alors, dans ce guide, il y avait toujours une page sur la FAO, et alors ça faisait un peu rêver, dans le sens où on se disait, tiens, il y a une organisation mondiale qui va nourrir le monde. Mais à ce moment-là, je ne pensais pas que tôt ou tard, je travaillerais à la FAO.
Et alors, vous avez commencé donc l'agriculture, et parallèlement, on peut dire, vous êtes aussi mise au service des villes dans lesquelles vous habitiez. Votre parcours, comment est-ce qu'il s'est dessiné ? Agriculture politique, politique agriculture ?
On ne construit pas tout, c'est une succession de hasards, d'erreurs d'orientation qui m'ont permis dans le même temps, étant aussi engagé au niveau politique, au sens où j'ai eu des responsabilités au titre de la politique agricole en France.
Quelles ont été vos fonctions et comment vous les avez gérées ? Quels ont été vos objectifs ?
Bon, j'ai d'une part travaillé dans un cabinet ministériel, ensuite au cabinet du président de la République pendant 6 ans, au cabinet de Jacques Chirac. Et c'est à ce moment-là que j'ai pensé qu'au plan local, là où j'habitais, je devais aussi m'engager. Il y a une sorte de dynamique qui se crée, d'envie. Il faut être à la fois au plan macro-économique, macro-politique, et en même temps très ancré sur le terrain. Et l'engagement municipal est quand même le meilleur ancrage sur le terrain. Et c'est là où on touche aussi du doigt un certain nombre de contradictions entre les réalités locales et les discours un peu généraux au plan national. Je pense aussi que la politique, c'est une manière de gérer ces contradictions au jour le jour. Donc ça fait partie du jeu et de l'intérêt de ses engagements.
Alors vous avez parlé de contradictions, une façon de gérer les contradictions dans la politique, mais il y a aussi peut-être des moments où ces contradictions ont pu être des cohérences aussi entre ce que vous espériez et puis ce qui s'est réalisé.
On a tendance à penser que, y compris en politique, l'action ne conduit pas toujours à des résultats. Alors c'est pas forcément visible toujours médiatiquement. Je sais que sur beaucoup de dossiers, on peut avancer et concrétiser les choses. Il y a vraiment des choses qu'on peut faire, et y compris transcender tout ça par un certain nombre d'idées que l'on peut porter. Et c'est une grande satisfaction de voir qu'à certains moments, ça débouche.
Vous avez visité beaucoup de pays. Il y a des pays qui restent marqués.
J'ai visité quelques pays. Je connais quasiment tous les chefs-lieux de canton français. Ça, c'est l'expérience au syndicat des jeunes agriculteurs. Au niveau international, je dois dire que ma grande empreinte, c'est Madagascar. Et j'ai un attachement particulier pour Madagascar parce que j'ai pu y travailler et j'ai pu voir aussi le niveau de pauvreté de cette grande île et en même temps des personnes passionnantes. Je me rappelle du jour où je suis arrivé à Madagascar et voyant toute cette pauvreté, et je me disais que c'est vraiment quelque chose que devraient connaître tous nos jeunes pour apprécier la richesse du monde où eux vivent.
Vous disiez aussi que vous connaissiez tous les cantons de France.
99%. C'est une autre manière de relativiser les choses, de penser qu'on a tout près de chez soi, déjà dans notre pays, tellement de choses à découvrir que c'est parfois illusoire ou c'est une sorte de fuite de se dire qu'il faut à tout prix aller à l'étranger chercher quelque chose.
Hervé Lejeune, vous êtes arrivé il y a 4 ans à la FAO comme sous-directeur général et directeur du cabinet de Jacques Diouf. Vous aviez des choses que vous portiez et qui commencent à se réaliser ou comment ça se passe ?
Mais ce qui me semble le plus passionnant, c'est le multiculturalisme de la FAO. Et du point de vue de la sociologie administrative, si je peux employer ce terme-là, c'est quelque chose de passionnant. Ça crée des émulations, ça crée parfois quelques tensions. Ça fait partie de la vie de l'organisation internationale.
Une multiculture, des multireligions, j'imagine, ouais, aussi, et tout ça au service d'un bien commun, d'un bien pour le monde. On rêve ?
On rêve, mais on rêve les pieds sur terre, des religions différentes, évidemment des opinions politiques différentes, mais la règle est d'en faire abstraction. Et c'est une forme absolue de respect qui fait que, faisant abstraction de sources de conflits, nous les évitons, mais c'est vraiment une forme de respect au quotidien.
Si vous regardez votre parcours, est-ce qu'il y a un mot qui pourrait raccrocher un peu toutes ces années de politique et d'agriculture au service de la politique?
C'est, je crois, plutôt un paradoxe. C'est à la fois le pragmatisme, qui vient aussi avec l'expérience, et puis toujours cette envie de voir les choses changer et puis d'y participer.